c'est à votre tour, Daniel. Vous nous parlez d'un texte, en fait, vous partagez avec nous un texte écrit par Rose Aimée Autonne-Témorin.
Oui, déménagement, c'est le thème des boîtes de livres et autant de fantômes. C'est ce texte de Rose Aimée, alors qui a paru dans la presse du 11 juin dernier. Toute passion, certes, confine au chaos. La passion du collectionneur, en ce qui la regarde, confine au chaos des souvenirs. C'est qu'en 1931, après un divorce acrimonieux, le philosophe allemand Walter Benjamin s'est posé dans un petit appartement meublé avec ses 2000 livres. L'exercice a mené à un essai, « Je déballe ma bibliothèque, une pratique de la collection ». Et cette phrase au sujet des souvenirs a particulièrement frappé Rose Aimée lors de sa lecture. Probablement parce qu'elle donnait enfin un sens à l'épreuve à laquelle elle se soumet à chaque déménagement, comme elle dit, pacter ma trolley de bouquins. Je n'aime pas accumuler les biens, sauf les recueils de poésie, les romans, les essais et tout ce qui comprend une reliure. Quand l'heure est venue de changer de toit, ce sont mes livres qui me demandent le plus de temps et aussi de biceps. Je m'en veux alors de leur accorder une telle valeur, eux qui ne valent pourtant pas grand-chose sur le plan pécuniaire. Je ne possède pas d'édition rare, contrairement à Walter Benjamin, qui était un véritable collectionneur. Je conserve plutôt la trace de tout ce que je lis au cas où j'aurais besoin de m'y replonger, et je le comprends maintenant pour me souvenir de temps révolus. Pour Walter Benjamin, la bibliothèque est un lieu de mémoire. Les ouvrages nous ramènent aux endroits où on les a achetés, autant qu'aux tablettes sur lesquelles on les a jadis déposés. Par la bande, ils nous replongent dans certaines époques et versions de soi. Ah, Rose Aimée sourit chaque fois que mes yeux se posent sur le premier livre de grande, entre guillemets, que ma sœur m'a offert quand j'avais une dizaine d'années, le titre « Ciel d'Afrique et pattes de gazelle ». Mon cœur se serre devant les nombreux ouvrages de mon père dont j'ai hérité à sa mort. Puis, j'ai de vagues remords à la vue du roman que j'ai emprunté à la bibliothèque municipale sans jamais le retourner. On l'a tous fait ça. Il y a 18 ans, et elle mentionne aussi, si vous êtes policier, vous pouvez venir me
bien
chercher.
Oui. Mais il n'y a jamais trop tard pour retourner un livre.
Non, de toute façon, on peut s'excuser. Puis,
oui. Dire et puis, maintenant, je pense que la plupart des bibliothèques ne chargent plus. Là. Il n'y a plus d'amende à payer, parce que là, ça coûterait vraiment cher.
Une fortune. Pour les policiers, son prénom, c'est Rose Aimée. Alors, ses livres, d'ailleurs, la ramènent, Rose Aimée, à un état d'enfant, de fille, d'étudiante, à des mondes maintenant un peu flous, autres, anciens et pourtant bien. Laisser mes livres dans un centre de dons, ce serait comme offrir mon passé au suivant, et pour elle, c'est impossible. Alors, j'accumule et je trimballe. Il y a Alberto Manguel, a lui aussi voué un essai, « Je remballe ma bibliothèque » au sujet de la collection de livres en 2018. Et imaginez, l'auteur a dû mettre ses 40 000 ouvrages dans des boîtes en quittant malgré lui la France il y a quelques années de cela. Autant vous dire, comme j'ai lu ailleurs dans un article, ça lui a coûté une petite fortune sur le bateau.
40 000 livres, ça fait combien de boîtes, ça?
Ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis d'ailleurs, Chantal Guy a visité sa bibliothèque nomade à Alberto Manguel, et c'est en février 2019. Elle y a consacré d'ailleurs un article. Justement, 40 000 livres, c'est pas facile à stocker. Alors, il y a énormément de boîtes, et c'est les éditions Leméac à Montréal qui ont entreposé depuis au quatrième étage les livres de M. Manguel, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit, puis ils sont assez gentils de l'avoir fait. Et Alberto Manguel, autant vous dire, c'est un amoureux des livres qui souhaite d'ailleurs léguer sa collection au Québec. Mais entre-temps, il a transformé sa collection en un livre. De plus, « Je remballe ma bibliothèque », j'avais le goût de lire. Démanteler sa bibliothèque de 40 000 volumes, patiemment amassée au fil de toute sa vie, mais pour lui, c'est comme si on me taillait les membres, qu'on me coupait les bras ou les jambes, parce que c'était mon corps, mon identité physique, le lieu qui me représentait le mieux, je dirais mieux que moi-même, c'est ce qu'il confiait en 2019 à Chantal Guy. Donc, quand Alberto, avec Chantal Guy, se rend à l'entrepôt, pour lui, il mentionne à Chantal Guy, ben, quand je vais à l'entrepôt, c'est une visite au cimetière. D'ailleurs, si vous avez le goût de lire l'intégrale de cet article qui est paru dans la presse du 11 février 2019, avec, c'est Chantal Guy qui écrit cet article. Mais là, je reviens à l'article de Rose-Aimée Automne-Morin. Non, c'est plutôt Rose-Aimée Automne-T-Morin. Alors, dans « Je remballe ma bibliothèque », Alberto Manguel, elle en fait mention, décrit parfaitement le lien sentimental qui peut nous unir aux livres. Ceux qui nous ont été offerts gardent à jamais la trace de l'ami, du mentor ou de l'amour qui nous en a fait cadeau. Pour l'auteur, nos bibliothèques sont ainsi hantées de fantômes bienveillants. Et croyez-moi, c'est le genre de spectre que je veux déménager de maison en maison. C'est son souhait à Rose-Aimée. Maintenant, j'admets que l'exercice n'est pas qu'une douce promenade dans des souvenirs heureux. Il est aussi très plate. Hein? M'asseoir pour remplir des boîtes pendant des heures, c'est nettement moins envoûtant que trouver le nouvel emplacement de mes précieux trésors. Le déballage de livres, peut-être parce qu'il est essentiellement chaotique, est un acte créatif. C'est ce qu'écrit Alberto Manguel. Walter Benjamin, lui, parle d'un moment fascinant qui le stimule au point où il lui est difficile de s'arrêter une fois lancé. Une boîte mène à l'autre et, pendant ce temps, le temps se suspend. Remballer, au contraire, c'est s'exercer à l'oubli. C'est ce que croit Manguel, comparant l'exercice à un film qu'on regarderait à l'envers. Il écrit aussi, parce que si toute bibliothèque est autobiographique, son remballage semble avoir quelque chose d'un auto-éloge funèbre. Ça peut bien être lourd, c'est ce que dit Rose-Aimée. Il y a aussi découvrir la bibliothèque de quelqu'un, puis en même temps, c'est un prétexte à discussion. Et Rose-Aimée, elle aime bien l'idée qu'on puisse mieux comprendre une personne en jetant un œil au livre qu'elle possède, cela dit. Quand j'entre chez quelqu'un pour une première fois, sa bibliothèque est le lieu que j'investis spontanément. Je fouille, je feuillette, je ne porte aucun jugement, je vois plutôt les livres comme d'excellents prétextes pour lancer des discussions qui me permettront d'apprendre à connaître mon hôte. Je n'oserais jamais présumer quoi que ce soit à la simple vue de titre. J'en possède moi-même beaucoup trop que je trouve gênant. D'ailleurs, la prochaine fois qu'on me demandera pourquoi je garde tous mes livres, même ceux que je n'aime pas, je pourrai piquer à Alberto Manguel ce formidable argument au cas où j'aurais un jour besoin d'un exemple de livre mauvais selon moi. Bien plus important encore, si je traîne une collection toujours plus grosse de déménagement en déménagement, c'est parce que j'ignore quelles sont les surprises que mes livres me réservent. C'est ce que j'ai compris grâce à « Je remballe ma bibliothèque », plus précisément en lisant ce passage. Je savais que dans cet espace familier entre les couvertures, je prendrais un soir un volume du Dr. Johnston ou de Voltaire que je n'aurais encore jamais ouvert et découvrirais une phrase qui m'attendait depuis des siècles. Ah, que c'est beau de mentionner Rose-Aimée. Une multitude de phrases m'attendent toujours. Il y en a même certaines que j'ai déjà lues, mais qui prendront un sens nouveau au gré des chapitres de ma vie. Les livres sont vivants et, selon Alberto Manguel, ils contiennent la possibilité de nous guider dans l'expérience et le savoir des autres en nous offrant l'intuition de l'incertain avenir et la leçon d'un passé immuable. Tant d'autrices et d'auteurs ont veillé à nous laisser des idées puissantes, salvatrices, guérisseuses ou révolutionnaires. C'est la sueur de leur front que je traîne avec moi parmi autres fantômes et autoportraits. Et pour elles, ça vaut bien le jus de bras du 1er juillet.
Bien d'accord.
C'est bon. Est-ce que vous avez beaucoup de livres, vous, Hélène?
Oui, j'ai deux bibliothèques. Et puis, quelquefois, j'essaie de faire du ménage, mais c'est extrêmement difficile parce que, justement, ces livres-là sont des témoins de notre parcours de vie et puis chaque livre nous apporte quelque chose, mais ça m'arrive d'élaguer un peu. Et vous, Daniel?
Oui, moi aussi, j'ai élagué il n'y a pas longtemps. J'avais donné un certain temps, pendant la pandémie, je me suis renflouée Oui. Puis là, j'ai redonné parce que je vais à la bibliothèque aussi. Et depuis quelque temps, j'offre mes services bénévoles à une bouquinerie l'économie circulaire. Donc, je suis entourée de livres. J'aime bien avoir des livres autour de moi. Je trouve ça intéressant.
Absolument. Je suis bien d'accord avec vous. Les livres, c'est la vie. On ne s'ennuie jamais avec un livre. Ma mère me dit ça souvent. C'est comme un ami fidèle. Hein. On le range dans la bibliothèque en autant qu'on ne se fasse pas piquer le livre. Mais il y a des livres qu'on prête puis qu'on ne retrouve jamais, puis on ne se souvient pas à qui on les a prêtés. Oui. Ça peut être fâchant.
Oui, c'est fâchant. Puis je vous dirais que j'ai rencontré récemment une dame qui a une dégénérescence maculaire.
Oui.
Et un de ses plus grands deuils, c'est de ne plus pouvoir lire comme elle pouvait. De ne plus lire. Parce qu'elle ne peut pas lire.
Elle peut lire avec, autrement, là, en empruntant des livres audio.
Oui.
Ou en se faisant faire la lecture.
Elle aimait bien le papier, oui, faire la lecture aussi. Et puis, si elle avait à choisir, elle préférerait être sourde.
Ah oui.
La vue, c'est pour dire. Hein?
Ah, ce sont des deuils immenses à faire quand on est, justement comme elle, amoureuse de la lecture et qu'on perd la vue. Alors, c'est un privilège d'avoir nos yeux pour lire, entre autres choses. Merci, Danielle. Et vous allez partager avec nous votre coup de cœur littéraire que vous avez dans votre bibliothèque, j'imagine.
Qui est retourné à la bibliothèque.
Alors, là-dessus, on s'en va chez Danielle, qui, elle, nous a préparé une deuxième chronique, en fait, pour nous parler d'un livre qu'elle aime particulièrement, même qui vous empêchait de manger.
Je disais non pour aller à la piscine, non, je vais lire à la place. Je veux dire que j'ai été obsédée pour le lire, mais...
C'est rare que ça arrive, ça.
Oui, c'est rare que ça arrive, puis aussi, je vais vous poser une question, je vais vous mettre en contexte un peu. En vous posant cette question, au-delà de l'Europe et des États-Unis, où trouve-t-on la plus belle collection de peintres au monde?
Au-delà, ailleurs qu'en Europe et...
Et aux États-Unis, Amérique du Nord, où trouve-t-on la plus belle collection de peintres au monde? Des classiques.
L'Ermitage en Russie?
Non.
Est-ce qu'on dit Canada?
Non.
Non. Donnez-nous un indice.
Puis en ce moment, c'est un point chaud dans l'actualité.
OK. En Iran?
Oui. En Iran,
vrai?
Tout à fait. C'est une des plus belles collections au monde en Iran, mais je vais vous mettre dans un autre...
J'espère est protégé.
Écoutez, vous allez voir. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du Shah d'Iran. Hein. Et ça a commencé en 1967, entre autres avec le sacre de Faradiba Pahlavi, qui est la troisième épouse du Shah, et elle est vue comme un symbole de l'émancipation de la femme musulmane à cette époque. Elle est aussi surnommée l'impératrice des arts, et elle veut développer la culture en Iran et inaugure pour cela plusieurs établissements, dont, entre autres, en 1967, elle ouvre le musée d'art moderne. Et en 79, en Iran, il y a la révolution islamique qui avait en effet stoppé les ambitions de ce fameux musée créé par l'impératrice. Et les autres, le Shah et Farah, étaient pro-occidentales et ces œuvres-là contenaient des œuvres jugées impies, notamment des nus et des toiles signées d'artistes homosexuels. Et au moment de la révolution, l'établissement a été fermé. La collection, il y a eu de nombreux cinémas qui ont été incendiés, des bars qui ont été fermés, parce que c'était vraiment pro-occidental à l'époque du Shah. Il dépensait beaucoup d'argent. Il y a un jeune gardien, et d'où le titre du livre, Le gardien de Téhéran, de Stéphanie Pérez. Le gardien, c'est Firouz Shabazi Mogadam, qui aujourd'hui a... dans les 70, il a œuvré quasiment seul à son sauvetage dans des circonstances plutôt rocambolesques. Et c'est ce pan extraordinaire de l'histoire de l'Iran à l'époque du Shah et à l'arrivée de Khomeini qui a inspiré ce roman de Stéphanie Pérez, qui est reporter et qui est spécialiste du Moyen-Orient. Ça a été publié en 2023 et on dit que, je l'ai lu, c'est pas sur un travail d'enquête approfondi. Il y a des témoignages. D'ailleurs, dans son livre, elle ne mentionne pas le nom du gardien en question, Firouz, pour le protéger. Dans un article que j'ai trouvé, j'ai vu le nom du monsieur. Et aussi, il y a des noms, d'autres noms qu'elle masque, qu'elle ne nomme pas pour protéger ces gens-là. Par contre, on retrouve des acteurs dans toute cette aventure d'ouverture de musée. Puis c'est à l'époque où les Américains étaient là et il y avait des acheteurs pour l'impératrice qui lui trouvaient des peintures. Elle était très connaissante dans les peintures, puis elle voulait acquérir certaines peintures et elle avait l'argent, mais il dépensait allègrement le chat et elle. Puis, on calcule que ce musée actuel contient la valeur de sa collection est estimée à 3 milliards d'euros, une des plus grandes collections au monde. Et on a des œuvres comme Picasso, Gauguin, Chagall, Francis Bacon ou Bacon, Andy Warhol, des trésors qui sont restés sous clé jusqu'en 2015 parce que finalement, ça a été... Cette collection-là a été préservée grâce à Firouz, qui s'en est occupé comme la prunelle de ses yeux. Curieusement, ce jeune homme-là, à l'époque, venait d'un milieu pauvre et il avait été recruté par le cousin de Farah Diba, l'impératrice. Et puis, à l'arrivée de la révolution islamique et des gens autour de Khomeini, il a tout fait pour préserver parce que les gens là-bas, ils connaissaient pas. Puis lui, curieusement, il voyait des scènes, mais ça lui a créé des émotions extraordinaires. Puis il s'est senti, pour lui, on pouvait pas détruire ces œuvres-là.
Mais en même temps, tout le monde était privé de les voir, sauf quelques privilégiés.
Non, mais c'est ça, c'est qu'ils ont été, au moment de la révolution islamique, ils ont été, je ne veux pas tout livrer tous les punchs, on les a mis dans descendus des murs, on les a mis dans un coffre-fort au sous-sol, mm-hmm. Donc ils étaient cachés de 79 à 2015. Ouais. Donc depuis un certain temps, ils ont été enfermés, et lui s'en occupait, et puis il déjouait aussi les gardiens, ceux qui supportaient...
C'est parce qu'on voulait protéger les tableaux, mais sauf qu'il n'y a personne qui pouvait les admirer, là.
Non.
Mais depuis 2015, on peut.
On peut les admirer. Et pour être allé dans ce pays, en Iran, en 2019, je devais être d'autres, les derniers touristes à aller en Iran. Je me souviens d'être allé dans un musée, un musée avec des jeunes musiciens, un musée qu'on gardait secret, et puis d'avoir découvert des gens talentueux. Tout se fait sous le couvert du secret. On montre pas, on a peur. Et puis, c'est un livre qui est extraordinaire. Puis j'en garde un beau souvenir de ce voyage en Iran, parce que c'est un pays qui est beau à voir, qui est particulier. C'est un peuple très gentil. On avait des consignes aussi quand on allait dans ce pays de ne pas approcher les gens, que les gens nous approchent. Il était interdit de répondre à leurs questions. Et la question qui revenait le plus souvent, les gens nous demandaient « Puis comment vous trouvez notre pays? » Puis nous, de répondre, on ne peut pas répondre à cette question. Alors, c'est un pays où j'ai senti la tension. Et au moment de mon voyage, entre autres, il y a eu des émeutes. Moi, j'étais dans le nord, dans les montagnes. Puis il y avait des émeutes à Téhéran et à Ispahan. Et puis, j'ai vécu aussi voir l'autoritarisme, tout le système informatique, les Facebook, tout était fermé, c'était interdit, on était coupé du reste du monde, à un point tel que nos familles s'inquiétaient lorsqu'on était là-bas, puis c'est plus facile de les appeler pour leur dire que tout allait bien, là. Mais
qu'est-ce qui vous avait attiré? Pourquoi vous aviez décidé d'aller en Iran?
En Iran, parce que j'ai côtoyé dans mes classes de francisation de nombreux Iraniens et qu'ils étaient des gens gentils, des gens aimables. Et après avoir quitté ce domaine, j'avais promis à certains que j'irais voir leur pays. Et puis l'Iran, par une chance, s'est présenté sur mon parcours et j'ai dit, il faut que je saute sur l'occasion d'y aller parce qu'on sait que c'est un pays qui est particulier, là, qui regorge d'histoire. Et c'est un peuple chaleureux aussi. Donc, le gardien de Téhéran, pour moi, ça a été une surprise de découvrir ce musée, cette collection. Je me rappelle, jeune, d'avoir aussi regardé les Paris-Match, les Jours de France avec l'impératrice et le chat. Et il dépensait beaucoup d'argent. Ça, je l'ai appris pas mal, là. Je l'ai découvert aussi quand j'ai vu les bijoux de la royauté. Écoutez, moi, j'en reviens pas de la dépense qu'ils faisaient. On est allé voir les joyaux de la couronne. Des plateaux là avec des montagnes d'émeraudes, des montagnes de topaz, des montagnes de rubis, des montagnes de diamants. Ils dépensaient allègrement.
La richesse extrême. Là.
La richesse extrême. Là. Puis aussi de voir, quand vous lirez ce livre, c'est de voir le contexte aussi pro-occidental. Là, on est en Orient. Ils ont peut-être poussé un peu trop. L'ayatollah, ben là, on remet en question des valeurs d'un pays aussi. Là. Donc, là, les Américains étaient là à cette époque. Les Américains sont là en ce moment. Qu'est-ce que ça va donner? C'est intéressant de lire pour comprendre les certaines tensions qu'on peut, dont on entend parler dans l'actualité. Puis ce livre-là nous permet de mettre en contexte à travers des œuvres d'art. C'est quand même pas rien.
Quel est le titre, Daniel, de ce livre?
Le gardien de Téhéran, et c'est de Stéphanie Pérez. Ça a été publié en 2023.
À quelle maison d'édition?
Attendez, puis je l'avais dans mes affaires. La maison d'édition, je l'ai. Je pense que c'est Plomb.
Ça se peut bien.
Oui, attendez, puis je vais vous trouver. Oui, il y avait aux éditions Récamier et en poche chez Plomb. C'est un livre de 200 pages, 200 quelques pages, mais tout est pertinent.
Bien, merci, vous êtes convaincue et convaincante. Alors, Daniel, passez une belle journée, une joyeuse Saint-Jean, puis on se retrouve la semaine prochaine.
Oui.
On sera là. Non, on ne sera pas là le 30 juin, c'est vrai, on est en congé.
Ah bon, oui, on est en congé.
Alors, bon. On se retrouve dans deux semaines.
Parfait, au revoir.
Au revoir.